à la vie comblée. Et on va faire ceci. Si vous avez une Bible avec vous, prenez la Bible dans votre main, ou sinon, prenez les notes. Et les notes que vous avez reçues à la porte contiennent presque tous les versets que nous allons lire ce matin. On va dire ceci. Voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Et je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Et je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Et je ne serai jamais plus pareil. Mais je serai pour toujours et à jamais transformé de gloire en gloire dans l'image de Jésus-Christ. Amen. Donc, ce matin, nous allons faire un message intéressant, important. Mettez de l'ordre dans votre vie ou mettez votre vie en ordre. Combien de vous, vous avez besoin d'un peu plus d'ordre dans votre vie? Hein? Et vous n'êtes pas obligé de lever la main, mais je pense qu'on peut tous profiter de ce message. C'est une chose qui est importante pour chacun de nous, n'est-ce pas? De pouvoir mettre notre vie en ordre. Et pour commencer, il y a un verset de la parole de Dieu qui est vraiment important pour nous à comprendre. C'est Genèse chapitre 1 et verset 1. Au commencement. Si on veut commencer bien ce message, il faut commencer au commencement, OK? Mais on va commencer ici. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Soulignez ces mots, informe et vide, s'il vous plaît. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et je pense qu'il y a quelque chose de super important dans ce verset qu'il faut saisir. Là, on voit qu'au commencement, Dieu il créa les cieux et la terre, et c'était vide et informe, mais quand même l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de la terre. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'on va voir dans quelques minutes vraiment la signification de ces deux mots, informe et vide, et je crois que vous allez comprendre les choses. Et il y a des principes qui s'appliquent à notre vie aussi. Là, on voit Dieu qui est tout puissant en train de créer l'univers, de créer la terre. Et quand il commence le processus de la création, on voit que tout d'un coup, la Bible dit que la terre était informe et vide. Le mot informe et vide, et c'est dans vos notes, égale en hébreu, et on a quelqu'un ici qui parle hébreu, je crois, mais laisse-moi vous dire que le mot ici, c'est tohu bohu en hébreu. Est-ce que combien de vous avez entendu parler de tohu bohu? Il y a même des groupes de punk il y a un groupe de punk qui s'appelle tohu bohu. Il y a des organismes qui s'appellent tohu bohu. C'est un nom qui est utilisé des fois même dans la société. Mais pourquoi? Parce que tohu bohu, ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans un sens, si on peut juste résumer, ça parle de quelque chose qui est en état de chaos ou de désordre. Quelque chose qui n'est pas encore ordonné, quelque chose qui est vide. En fait, c'est une expression qui est souvent utilisée dans la langue hébraïque. Et on voit quelque chose, ces deux mots, tohu, bohu, informe et vide. Et j'ai mis dans vos notes la définition que nous avons dans la concordance de la Bible. Il y a des chiffres là, 08414, quelqu'un a demandé c'est quoi ça? Ça c'est juste un numéro de Strong. Pour les concordances, si vous connaissez cela, si vous voulez connaître la signification d'un mot biblique, il y a un numéro, un chiffre qui a été donné à chaque mot qui se trouve dans la langue originale de la parole de Dieu en hébreu et en grec. Et ici, le mot tohu, ça veut dire quoi? Ça vient d'une racine du sens d'être dévasté. Informe, confusion, chose irréelle ou vide. Ça peut être un néant, espace vide. Ce qui est vide ou irréel, comme si on parle figurativement, c'est comme pour les idoles. Une terre qui est désolée, désert, un lieu de chaos, vanité. Donc, n'est-ce pas intéressant que quand Dieu a créé les cieux et la terre. Le prochain verset que nous voyons, c'est que la terre, verset 2, la terre était informe et vide. La terre était tohu, bohu. On vient de voir tohu, mais bohu veut dire quoi? Il vient d'une racine du sens d'être vide, informe, nul, détruite. Donc, on parle de quelque chose qui est en désordre ou même dans un état de destruction. Donc, il y a plusieurs théories là-dessus. Est-ce que Dieu a créé la terre dans un état de chaos ou de destruction ou de désordre, ou il y a même, et je vais dire quelque chose, je fais bien attention parce que je ne suis pas dogmatique là-dessus, mais peut-être dans votre vie chrétienne, vous allez entendre cela, qu'il y a des érudits de la parole de Dieu même qui croient que peut-être il y avait un événement entre verset 1 et verset 2. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé, un événement qui a mis la création de Dieu dans un état de chaos ou de désordre. Il y a des personnes qui croient, par exemple, que quand Satan, Lucifer, a fait sa rébellion, il était jeté sur la terre, que c'était à ce moment-là qu'il y avait comme un état de chaos. Je ne sais pas, je suis pas là pour dire que c'est vrai ou pas vrai. Mais quelque chose qu'on sait, pour et c'est certain, c'est que avant que Dieu a parlé que la terre était dans un état de tohu bohu, en désordre. C'était au moins, c'était vide. C'était informe. Il n'y avait pas de structure. Au moins, il y avait ça. Ou peut-être, au pire, il y avait même un état de chaos qui a été provoqué par un événement comme quand Satan a été jeté sur la terre. Ça, on ne sait pas, mais qu'est-ce qu'on sait, c'est que la terre était tohu bohu. Regarde, quelqu'un a dit tohu bohu. Et ça, c'est un bon mot, hein? Vous pouvez faire cela, utiliser ce mot avec vos enfants. Quand vous regardez la chambre, et la chambre est toute en désordre, vous dites, wow, ça, c'est vraiment tohu bohu. C'est dans un état de désordre, de chaos, ça n'a pas de bon sens. Mais n'est-ce pas intéressant? Et qu'est-ce que je veux souligner, c'est que l'Esprit de Dieu se mouvait par-dessus de la terre et la terre restait dans un état de tohu bohu. Qu'est-ce que je suis en train de dire, c'est que même si Dieu est présent, il faut que Dieu agisse avant que l'ordre revienne. Et pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que dans plusieurs de nos vies, on a donné notre vie au Seigneur Jésus, nous sommes le temple du Saint-Esprit, Dieu habite en nous, l'Esprit de Dieu est en nous et sur nous-mêmes. Mais savez-vous quoi? Qu'on peut être chrétien, on peut avoir l'Esprit de Dieu en nous et quand même avoir des choses qui sont en désordre dans notre vie. Et on a besoin de voir que c'est pas juste l'Esprit de Dieu qui va mettre de l'ordre. C'est la combinaison de l'Esprit de Dieu avec quelque chose d'autre qui va faire en sorte que le tohu bohu va être transformé dans un état d'ordre et quelque chose qui va avoir de bon sens. Donc, pensez ça à votre vie. Est-ce qu'il y a des places ou des domaines de votre vie qui ne sont pas en ordre actuellement? Est-ce qu'il y a du chaos dans votre vie de couple? Est-ce qu'il y a du chaos dans vos finances? Est-ce qu'il y a du chaos dans vos émotions? Est-ce qu'il y a du tohu bohu dans votre vie? Parce que s'il y a du tohu bohu dans votre vie, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez mettre de l'ordre. Et nous sommes la création de Dieu. Et nous allons mettre de l'ordre dans notre vie de la même façon que Dieu a mis de l'ordre dans l'univers. N'est-ce pas? Parce que nous sommes ses enfants et on travaille de la même façon que lui. Donc, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc là, on voit que le potentiel du changement était là. L'Esprit de Dieu avait le pouvoir. Est-ce que vous êtes d'accord que le Saint-Esprit a le pouvoir de changer le chaos en paradis? C'est ça qui s'est passé. Hein? Tohu bohu a été transformé dans le jardin d'Éden, n'est-ce pas? Et Dieu peut faire la même chose dans votre vie. Il peut prendre le tohu bohu, le désordre, le chaos de votre vie, et il peut le transformer dans quelque chose qui est beau, qui est merveilleux, qui est fructueux, et qui est plein de vie, et plein de joie et de bonheur. Et c'est ça que nous voulons, n'est-ce pas? L'Esprit de Dieu a le pouvoir de le faire, mais l'Esprit de Dieu n'agit pas indépendamment d'une autre, un autre élément. Et savez-vous c'est quoi l'autre élément? Regardons. Dans vos notes, c'est l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu qui vont mettre de l'ordre dans votre vie. C'est l'Esprit et la parole. Comment on dit l'Esprit et la parole? Donc, c'est pas assez juste d'être né de nouveau, d'avoir le Saint-Esprit dans votre cœur. C'est pas assez. Vous, si vous voulez de l'ordre dans votre vie, il faut avoir un mariage de l'Esprit et de la parole dans votre vie. Et on voit cela en verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Dieu a créé les cieux et la terre. Les cieux et la terre étaient tohu bohu. Et puis, pour transformer le tohu bohu, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a parlé. Et la parole de Dieu, quand il a parlé, l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus de la terre a agi. Parce que l'Esprit de Dieu confirme toujours la parole de Dieu. Amen? C'est comme encore, on a de l'électricité dans la prise ici, mais l'électricité est présente dans cette petite boîte. Il y a du courant, mais ça sert à rien à moins de brancher un appareil. Il faut prendre un fil, il faut prendre quelque chose, il faut le plugger, comme on dit en bon français, et puis il faut brancher cela, et puis le courant va sortir de la boîte et faire son œuvre, n'est-ce pas? L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de la terre, mais quand Dieu a parlé, l'Esprit de Dieu a agi. Et cette action de l'Esprit a transformé le tohu bohu dans un paradis. Amen? Donc, c'est la même chose pour votre vie. Dieu est là, il habite en vous, mais ça va de pair avec le message de la semaine passée. On parlait de la parole de Dieu et comment mettre la parole de Dieu à l'œuvre. Et on a vu que la parole de Dieu agit en ceux qui croient. Si vous croyez, la parole agit. Si vous ne croyez pas, la parole n'agit pas. Donc voilà, c'est l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu qui vont mettre de l'ordre dans votre vie. Donc, Hébreux 11, 3, quelque chose de super intéressant, si on peut regarder ce verset, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été quoi? Formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on ne voit n'a pas été fait des choses visibles. La terre était informe et vide, mais la terre a été formée par la parole de Dieu. Donc, le chaos a été transformé en paradis par la parole de Dieu et l'action de l'Esprit. Dieu a dit, l'Esprit a agi. Et c'est la même chose pour vous. Vous savez que de la même façon que Dieu a formé et il a mis du sens et de l'ordre dans l'univers et sur la planète Terre avec l'Esprit et la parole, que vous pouvez former votre monde avec vos paroles qui sont en ligne avec la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu va confirmer la parole de Dieu qui est dans votre bouche. C'est vrai, n'est-ce pas? Comment est-ce que c'est possible que Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce que dit arrive, il le verra s'accomplir. Comment est-ce que c'est possible? Est-ce que vous, dans votre être naturel, dans votre état naturel, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a assez de pouvoir de déplacer une montagne? Moi, j'en ai pas. Dans mon état naturel, je suis quand même un être humain et j'ai des limitations humaines. Mais quand je dis quelque chose qui est en ligne avec la parole de Dieu et je confesse la même chose que Dieu dit, l'Esprit de Dieu agit avec mes paroles de la même façon que l'Esprit de Dieu agit avec la parole qui sort de sa propre bouche. Pourquoi? Parce que je dis la même chose. Moi, je suis pas électricien, mais une fois, j'ai entendu que si on a un fil électrique, qui a du courant qui passe, et on prend un autre fil qui n'a pas de courant. C'est juste un fil ordinaire. OK? Mais si on met le fil ordinaire à côté du fil qui est chargé, et plus on l'approche, aussi longtemps que c'est en parallèle et que ça va dans le même sens, plus on l'approche, qu'est-ce qui peut arriver? C'est que le courant qui est dans le fil chargé peut sauter dans le fil ordinaire. Et tout d'un coup, le fil ordinaire devient extraordinaire. Et savez-vous, vos paroles, si vous parlez juste de même, vous dites n'importe quoi, vos paroles n'ont pas autant de puissance. Vous avez toujours une certaine puissance parce que la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Mais quand vos paroles s'approchent de la parole de Dieu et sont en ligne et en parallèle avec la parole de Dieu et vous dites la même chose que Dieu dit, la puissance de la parole de Dieu va sauter dans vos paroles aussi et vous allez voir, ça va marcher dans votre vie. Donc, encore, l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu peuvent mettre de l'ordre dans votre vie et ça, c'est une chose super importante. Alléluia. Et on peut former notre monde par les paroles de notre bouche qui sont en ligne avec la parole de Dieu. Quelque chose d'important. Donc, quand on parle de mettre de l'ordre, de transformer le tohu bohu en paradis, et c'est ça que nous voulons, n'est-ce pas? Combien de vous voulez dire au revoir au tohu bohu? Hein? Vous êtes tannés d'avoir tout en désordre. Parce que en vie déréglée, en vie en désordre, c'est pas une vie productive, c'est pas une vie fructueuse, c'est pas une vie agréable. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Plusieurs choses. Il y a un autre point que je veux faire avant de vous donner le OMC, le oui, mais comment. Je veux parler de ceci parce que quand on parle de l'ordre, on parle de plusieurs choses. Mais une chose qui est importante quand on parle de mettre notre vie en ordre, c'est qu'il faut établir les priorités sans négliger les choses importantes. C'est l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu qui vont transformer notre tohu bohu. Mais pour que ça arrive, il faut qu'on met nos efforts, il faut qu'on soit concentré sur les choses qui ont de valeur dans notre vie. Vous êtes d'accord? On a besoin de mettre de l'ordre en établissant les priorités sans négliger, tout le monde dit négliger, les choses importantes. Jésus a dit quelque chose à Matthieu 23, 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'aneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important, soulignez le mot plus important, dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger, soulignez encore cette phrase, sans négliger les autres choses. Donc aujourd'hui, ce matin, on va parler de comment, avec l'aide de l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu, mettre de l'ordre dans notre vie. Mais il faut mettre de l'ordre à la bonne place. Il faut avoir les priorités. Mais voici le problème que j'ai vu dans le corps de Christ. Souvent, les gens commencent à voir que leur vie est déréglée, les choses ne sont pas en ordre, donc ils ont pris une décision. Bon, là, je vais établir les bonnes priorités. Mes priorités n'étaient pas bonnes, donc il faut que Dieu soit numéro un dans ma vie, n'est-ce pas? Après Dieu, d'habitude, c'est quoi la deuxième priorité qu'on devrait avoir? C'est notre mariage, notre famille, n'est-ce pas? Après ça, c'est notre ministère ou notre carrière, etc. Donc, il faut avoir Dieu en premier, la famille en deuxième, et puis le ministère et le travail. C'est important que ça soit en ordre. Mais le problème, c'est que des fois, quand j'ai vu des personnes qui ont eu les choses déréglées, ils ont mis peut-être le ministère avant Dieu, ou ils ont mis la famille avant Dieu, ou vice-versa. Le problème, c'est qu'ils vont dire, bon, mais c'est quoi la chose la plus importante dans la vie? C'est Dieu, ma relation avec Dieu. Donc, je vais me concentrer là-dessus. Et je vais laisser tomber toutes les autres choses. Donc, ils laissent tomber la famille, ils laissent tomber le ministère, parce que tout ce qui compte, c'est Dieu. Ou les autres, tout ce qui compte, c'est Dieu et la famille. Donc, c'est Dieu, la famille, mais on laisse tomber le ministère, on laisse tomber le travail. Non, mais c'est pas ça. Qu'est-ce que Dieu veut? Il veut mettre de l'ordre dans votre vie. Il faut que vous ayez les bonnes priorités, mais sans négliger les autres choses. Combien de vous avez entendu l'histoire des grosses pierres dans le pot? Vous avez entendu parler de ça? Un jour, il y avait quelqu'un, un expert en comment gérer son temps, est allé dans une université. Il était devant un groupe d'étudiants. Il avait un pot comme ça. Donc, et puis, il a pris 5 roches assez grosses. Il les a mis dans le pot et ça a rempli le pot jusqu'au au bord. Et puis il a demandé, est-ce que je peux mettre autre chose là-dedans? Et les gens ont dit, non, c'est plein, c'est rempli, sinon c'est terminé. Il a, ah? Et puis il a pris un peu de gravel. OK? Les petites roches et les petits cailloux. Et puis il les a mis dans le pot et toutes ces petites roches ont été capables d'entrer autour des grosses roches. Ils ont dit, oh wow, tu as pu mettre plus. Et puis, est-ce que c'est rempli maintenant? Ils ont dit, oui, c'est rempli. Non, puis il a pris du sable. Donc, il a pris le sable, il a mis du sable, il a brassé comme faux, donc il a rempli encore. Est-ce que c'est rempli? Et là, ils ont commencé à capter, probablement pas. Donc, il a pris de l'eau et il a mis encore de l'eau, donc il a rempli le pot avec de l'eau, avec le sable, avec le gravel, avec les roches. Et le problème, qu'est-ce qui arrive dans la vie, c'est que, et quelqu'un a posé la question aux étudiants, mais c'est quoi le message, le moral de qu'est-ce que vous venez de voir? Quelqu'un a dit, on peut toujours faire plus dans la vie. Il a dit, non, c'est pas ça. C'est pas qu'on peut toujours faire plus. Il a dit, le message que je veux illustrer aujourd'hui, c'est que si vous voulez vraiment bien remplir le pot, il faut commencer avec les grosses roches. Parce que si j'aurais commencé avec le sable ou avec l'eau, j'aurais jamais pu mettre les roches. Ou si j'aurais commencé avec les petites, avec la gravelle, j'aurais jamais pu mettre les roches. Donc il a dit, les roches sont comme les priorités primordiales dans votre vie, les choses les plus importantes. Mais c'est pas juste ça qui est important. Il faut avoir les roches, mais il faut avoir aussi le gravel, il faut aussi avoir le sable, il faut aussi avoir de l'eau, n'est-ce pas? C'est comme je pensais à ça cette semaine, je méditais cela. Et dans le naturel, un être humain a besoin de faire au moins trois choses pour rester en vie. On a besoin premièrement de l'air, n'est-ce pas? Combien de vous êtes capable de vivre sans respirer, sans l'air? Personne. Mais, quelqu'un peut dire, bon, mais tu sais, la chose la plus importante pour rester en vie, c'est l'air, donc je vais laisser faire toutes les autres choses. Je ne vais que respirer. Ça marche pas. Parce que, c'est pas juste ça, on a besoin de l'eau aussi, n'est-ce pas? Donc, et bon. C'est pas juste de l'air et de l'eau, on a aussi besoin de quoi? La nourriture. En fait, c'est intéressant, quelqu'un a dit une fois, on peut se rappeler de cela, c'est comme un règlement en général de 3, 3 et 3. On peut vivre seulement 3 minutes sans respirer, parce que à partir de 4 minutes, le cerveau commence à mourir. Après 4 minutes, le cerveau commence à mourir si on n'a pas d'oxygène. Donc, 3 minutes, c'est le plus que je peux aller sans respirer. Puis, deuxième priorité, c'est quoi? C'est de boire. Parce que je peux vivre à peu près 3 jours sans boire. En général, bien sûr, il y a toujours les exceptions. Et puis, après ça, on dit qu'on peut vivre en moyenne de 3 semaines sans manger. On sait qu'on peut avoir des cas particuliers ou des événements où quelqu'un peut faire un jeûne de 40 jours. On voit ça dans la Bible, mais ça, c'est pas une chose qui est suggérée. Non. Ça peut être très dangereux. Vous pouvez rejoindre le Seigneur avant le temps. Donc, je peux 3 minutes sans respirer, 3 jours sans boire et 3 semaines sans manger à peu près. C'est quoi le plus important? Respirer. Après ça, boire. Mais après ça, il faut manger. Mais encore, voici le problème. On parle de mettre de l'ordre dans sa vie, de prendre le chaos de notre vie et d'amener de l'ordre. Et le problème encore, c'est que les gens sont trop vite à dire, bon, je vais mettre Dieu en premier, mais ils vont dire, je vais respirer dans le fond, mais laisse faire l'eau et laisse faire la nourriture. Non? Il faut avoir de l'eau, il faut avoir de l'air et il faut avoir de la nourriture dans le naturel. Et on va voir dans une minute, dans l'esprit, c'est exactement la même chose. C'est le Saint-Esprit et la parole qui vont mettre de l'ordre dans votre vie. Mais regardons, qu'est-ce qu'on va faire? OMC, oui, mais comment? Il faut apprendre à respirer spirituellement, il faut apprendre à boire spirituellement et il faut apprendre à manger spirituellement. Et si on est capable de faire cela, ça va, on pourrait dire, donner libre cours, ça va faire en sorte que l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu puissent agir dans notre vie comme il faut. Amen. Est-ce que ça vous intéresse? Numéro 1. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour mettre de l'ordre dans notre vie, pour donner place à l'Esprit de Dieu et à la parole de Dieu? Respirer en apprenant à pratiquer sa présence. Savez-vous que il y a un chant qu'on chante, « Cet air que je respire, cet air que je respire, j'ose pas le chanter. » C'est quoi? « C'est ta présence qui vit en moi. » L'air que je respire, c'est ta présence qui habite en moi. Et je crois que si on veut vraiment avoir une vie en ordre, il faut respirer spirituellement, c'est-à-dire que encore, vous ne devrez pas aller 3 minutes sans être conscient de la présence de Dieu. Amen. Il y a des gens qui pensent, « Oh, mettre Dieu en premier dans ma vie, ça veut dire que je commence la journée avec 5 minutes de lecture dans la Bible, avec 5 minutes de prière ou 1 heure de lecture, 1 heure de prière, et puis je m'en vais, je change de vitesse, et puis je fais mes choses naturelles. » C'est pas ça. Ça, c'est pas une vie en ordre. Une vie qui est en ordre respire la présence de Dieu la journée longue. Amen. Quand c'est le temps de dévotion, on respire la présence de Dieu. Quand c'est le temps de jouer avec les enfants, on respire la présence de Dieu. Quand c'est le temps d'aller dîner avec son épouse, on respire la présence de Dieu. Quand c'est le temps d'aller à l'église, j'espère qu'on respire la présence de Dieu. Est-ce que vous voyez qu'est-ce que je veux vous dire? C'est que Dieu veut infiltrer chaque domaine de votre vie comme l'air va infiltrer chaque partie de votre être aussi. Je vis en lui. C'est en lui que je vis et que j'ai mon existence. Je respire. J'aime beaucoup. Smith Wigglesworth, c'était un homme de Dieu qui a eu beaucoup de miracles, même des hommes ressuscités d'entre les morts dans son ministère. Et quelqu'un lui a demandé une fois, parce que c'était un homme de prière, « Dis-moi le secret de la... Combien d'heures par jour est-ce que vous priez? » Et quelqu'un pensait qu'il allait dire que peut-être il priait pour 3, 4, 5, 6 heures de fil, parce qu'il y a des personnes qui font ça. Mais il a dit, c'est très rare que je vais prier plus que 30 minutes. Mais, et la personne était étonnée, seulement 30 minutes? Elle a dit, oui, mais c'est très rare que je vais passer 30 minutes sans prier. Donc encore, on respire la présence de Dieu. Il est là, on est conscient de sa présence. Regardons ces versets, Genèse 2, 7. Il y a quelque chose à saisir ici. Il y a quand même un parallèle entre l'oxygène et l'air qu'on respire et l'Esprit de Dieu. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et qu'est-ce qu'il a fait? Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. C'est cet air que je respire, c'est ta présence. Après ces paroles, et n'est-ce pas intéressant? Que Dieu a soufflé dans les narines d'Adam, Adam est devenu un être vivant, mais Dieu a dit que la journée que tu manges de ce fruit, que tu vas mourir. Il parlait pas de la mort physique seulement, mais de la mort spirituelle. Parce que la vie spirituelle, c'est d'avoir mon esprit en communion avec l'Esprit de Dieu. Et le moment que Adam et Ève ont péché, leur esprit a été séparé d'avec l'Esprit de Dieu et ils sont morts spirituellement. Adam et Ève ont été nés de nouveau à l'envers. Ils sont passés de la vie à la mort spirituelle. Vous êtes d'accord? Mais regarde bien, quand Jésus, et on voit cela en Jean chapitre 20, verset 22, après la résurrection, il est avec ses disciples, et après ses paroles, il souffla sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit. Donc, dans un sens, Adam et Ève ont perdu la présence de l'Esprit Saint qui était en eux, et Jésus a fait en sorte que maintenant on est capable de recevoir de nouveau la présence de l'Esprit Saint en nous. Adam et Ève sont passés de la vie à la mort, et maintenant, en Christ, nous sommes passés de la mort à la vie. Nous sommes nés de nouveau. Encore de nouveau, on est capable de respirer de l'Esprit. Amen. Et de pratiquer sa présence, parce que sa présence est vraie. Alléluia. Donc, que tous ceux qui respirent l'Éternel, louent l'Éternel. Posez la question à la personne à côté de vous. Est-ce que vous respirez ce matin? Bon, mais physiquement, j'espère que oui. Sinon, on va appeler 911. Mais que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Si vous respirez physiquement, vous devriez louer le Seigneur. Ça, c'est encore une forme de... La louange est en forme de respiration spirituelle. Seigneur, je te loue, je te remercie. Peu importe qu'est-ce que vous faites, vous le remerciez. Que vous soyez n'importe où, vous le remerciez, car il est bon. Alléluia, vous respirez la présence de Dieu. J'aime beaucoup 1 Corinthiens 10, 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites quoi? Faites tout pour la gloire de Dieu. Et c'est ça la beauté de la vie chrétienne. Je ne parle pas de la religion. La religion dit, viens à l'église une fois par semaine, ou prie une fois par jour. Mais la vie chrétienne, c'est respirer de l'Esprit la journée longue. 24 heures sur 24 heures. Savez-vous que vous respirez même pendant votre sommeil? Donc ça, c'est priorité numéro un, parce que soit que vous mangiez, soit que vous buviez, on va parler de l'importance de respirer, de boire et de manger. Mais savez-vous quoi? On respire pendant qu'on mange, n'est-ce pas? Sinon, c'est dangereux aussi. Sinon, essayez ça, boucher le nez complètement et essayer de manger, ça marche pas. Essayez d'arrêter complètement de respirer la prochaine fois que vous voulez boire un verre d'eau ou quelque chose, et c'est pas évident, vous êtes d'accord? On respire en tout temps, et peu importe qu'est-ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on pratique la présence de Dieu, peu importe qu'est-ce qu'on fait dans la vie. Pendant nos temps de loisirs, pendant notre temps au travail, dans notre temps familial, on est toujours conscient de la présence de Dieu. J'ai amené un de mes fils, fait du camping il n'y a pas longtemps, et c'était toute beauté. Là, on ramenait le canot et on était sur le lac et c'était merveilleux. Mais qu'est-ce qu'on faisait? Moi, je parlais de la création. En faisant ça, je dis, tu sais quoi, c'est merveilleux de penser que celui qui a créé le lac, celui qui a créé ses arbres et ses collines, il habite en nous. Donc tu vois, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de respirer la présence de Dieu. Tout en ramant le canot. Tu sais, on peut avoir cette communion avec Dieu intense, cette respiration avec Dieu intense. Et c'est là, la vie chrétienne n'est pas plate, au contraire. On connaît le Créateur. Les gens vont regarder toutes les autres choses pour remplir le vide dans le cœur. Et en réalité, si vous consultez celui qui a créé toutes choses, c'est lui qui va vous montrer comment jouir de toutes choses. Amen.
Amen.
Alléluia. Donc, respirez en apprenant à pratiquer sa présence, numéro un. Numéro deux, buvez en prenant du temps dans sa parole. Donc, c'est bon d'être conscient régulièrement à chaque fois que... Comme je dis, respirer, c'est quelque chose qui est presque involontaire. Vous êtes d'accord? J'ai pas besoin de penser, oh, là, je vais respirer. C'est pas, oh, j'ai oublié! Non. Si j'oublie de respirer, mon corps va me rappeler vite. Vous êtes d'accord? Ça va faire quelque chose. Je vais tomber dans les pommes et puis tout de suite, je vais commencer. C'est pourquoi les enfants qui disent, mais si tu ne me donnes pas ce que je veux, je vais arrêter de respirer. Bon, mais la pire chose qui peut arriver, c'est qu'il va juste être sûr et certain qu'il y a un matelas ou un oreiller ou quelque chose pour que quand il tombe dans les pommes, non. Ils vont pas se blesser, ils vont pas se cogner la tête, mais sinon, automatiquement, le corps va commencer à respirer. Et quand on est né de nouveau, on devrait cultiver notre relation de Dieu jusqu'à un tel point où ça devienne automatique. Ça devienne comme involontaire. Je suis conscient de la présence de Dieu. Je l'aime, il m'aime, et Que je mange, que je bois, que je fasse autre chose, je fais tout pour la gloire de Dieu. Puis numéro 2, buvez en prenant du temps dans sa parole. Vous voyez, dans la parole de Dieu, on voit souvent que l'eau est symbolique de la parole de Dieu aussi. Pour les maris, cela implique qu'ils portent à leur épouse le même amour que celui dont le Christ a aimé l'Église. Il s'est sacrifié pour elle afin de l'amener à une vie pure et sainte. C'est pour cela qu'il l'a mise à part, consacrée, purifiée, lavée à grands eaux en lui donnant sa parole. Donc on voit une comparaison entre la parole et l'eau. Bien entendu, on voit aussi la parole de Dieu est symbolisée par plusieurs choses dans la Bible. Mais en Jean chapitre 4, verset 14, Jésus a dit, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Donc, je vous lance le défi. Allez voir dans la Bible toutes les places où ça parle de boire de l'Esprit, boire de la parole. Jésus est la parole vivante. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et la parole s'est fait chair. Donc, on sait qu'on doit prendre une décision à tous les jours de boire. Moi, je ne prends pas une décision à tous les jours de respirer. C'est comme automatique. Et on doit être là dans notre vie spirituelle où c'est comme, je suis toujours conscient que Dieu est là, peu importe qu'est-ce que je fais. Mais je devrais régulièrement, je peux aller seulement 3 minutes sans respirer, je peux aller seulement 3 jours sans avoir de l'eau. Et laisse-moi vous dire, vous pouvez survivre comme ça. Mais est-ce que je peux vous poser une question? Quelqu'un qui ne boirait qu'une fois chaque 3 jours, est-ce qu'il serait en bonne santé? Non, il va rester en vie, mais il va avoir des problèmes. Même chose, quelqu'un qui boit la parole de Dieu seulement une fois de temps en temps, une fois chaque 3 jours, quelque chose de même, il peut peut-être survivre comme ça, mais il va pas être en santé spirituelle. Donc, on a besoin de prendre une décision à tous les jours de prendre la parole de Dieu et de boire la parole de Dieu pour être désâtré, n'est-ce pas? Pour réhydrer spirituellement nos organes spirituels, si vous voulez, pour qu'on soit en forme, en bonne santé. Et c'est ça qu'on veut. La parole de Dieu doit être aussi chère pour nous que l'eau. On ne devrait pas dépasser. On ne devrait pas dire, ben c'est pas grave, c'est pas important. Moi, j'ai choisi la chose la plus importante. Je vais juste être conscient de la présence de Dieu. Ça, c'est comme les personnes qui disent, oh, mais moi, je vais pas à l'église. Pour moi, le bois, la forêt, c'est ma chapelle. Combien de vous connaissez des personnes comme ça? Et pour moi, je vois Dieu en tout. C'est pas ça. On voit, oui, Dieu est partout. Il est en nous. Et on peut respirer sa présence, mais on a besoin aussi de s'arrêter et régulièrement méditer la parole de Dieu pour être désaltré. Amen? Donc, il faut boire de l'Esprit de Dieu en prenant du temps dans sa parole. Puis, c'est quoi numéro 3? Troisième chose, on va respirer, on va boire, mais aussi il faut manger. Et je sais qu'il y a plusieurs choses que la Bible dit à propos de la nourriture spirituelle, mais je vais souligner une chose aujourd'hui. Et laisse-moi vous dire que la liste que je vous donne, ces 3 choses, c'est pas tout ce qu'il y a. Il y a d'autres choses qu'on aurait pu dire et souligner, mais ça, c'est les 3 choses que le Seigneur a mis sur mon cœur, je crois vraiment, pour nous ce matin. Respirer en apprenant à pratiquer sa présence, buvez en prenant du temps dans la parole, mais aussi manger en vous consacrant à l'œuvre de Dieu et à la volonté de Dieu. Savez-vous, encore, trop de personnes disent, mais la priorité, c'est juste d'être en relation avec Dieu, je respire. Ou la priorité, c'est que j'ai une dévotion personnelle avec le Seigneur. Je lis ma Bible, je prie, je lis ma Bible, je suis un bon chrétien. Mais il laisse à côté le 3e élément qui est important, ça c'est de manger spirituellement. Et qu'est-ce que Jésus a dit à propos de cela en Jean chapitre 4, verset 31? Vous vous rappelez de l'histoire? Jésus et ses disciples sont en voyage. Jésus est fatigué de son voyage. Ils arrivent dans une ville qui s'appelait Sychar. Et dans cette ville, il y avait un puits. Le puits de Jacob, il l'appelait. Et Jésus s'est arrêté pour se reposer. Et tous les disciples sont allés en ville pour chercher du McDo ou quelque chose, je ne sais pas, ou du Tim Hortons, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont cherché. Mais ils sont allés en ville pour chercher la nourriture. Jésus a resté et il était là et la femme est venue. Vous vous rappelez de l'histoire pour au puits. Jésus a demandé de l'eau et c'est là où on a eu ce discours que vous, si vous demanderez, je vous donnerai de l'eau et vous n'aurez jamais plus soif, mais que l'eau que je vous donne, ça deviendrait une source d'eau vive qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Ça, c'est tout le contexte. Jésus était en train d'avoir cette conversation avec cette femme, ok, samaritaine. Donc, pour un homme juif de parler avec une femme samaritaine, déjà, c'était pas kosher, hein? C'est pas correct. Donc, ses disciples reviennent, ils le voient. Qu'est-ce qui se passe? Ils voient le maître en train de parler avec cette femme samaritaine, mais ils n'ont rien dit pour tout de suite, sauf qu'ils ont demandé. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange! Tu dois sûrement avoir faim. Mais il leur dit, j'ai à manger une, quoi? Nourriture que vous ne connaissez pas.
Quoi?
Qu'est-ce que ça? On est allé chercher une grosse poutine et là, vous avez déjà de quoi dans votre poche. Non, c'est pas ça. J'ai déjà une nourriture que vous ne connaissez pas. Et qu'est-ce qu'il dit? Il continue. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Et Jésus leur dit, ma nourriture, tout le monde dit ma nourriture, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc c'était quoi la nourriture de Jésus? Faire la volonté de Dieu, accomplir l'œuvre de Dieu. C'est comme ça qu'il se nourrissait. Et c'est là que je veux que vous voyez aujourd'hui. On a besoin de respirer, on pratique la présence de Dieu. On a besoin de boire, on prend du temps dans la parole de Dieu. Mais c'est pas assez, on a besoin de se mettre à l'œuvre pour Dieu aussi. Amen? Ça, c'est notre nourriture. On peut vivre peut-être 3 semaines sans manger, mais c'est juste une question de temps. On va devenir tout maigre, on va devenir tout faible, on aura plus de force, plus de capacité. On a besoin de manger, pas juste... Trop souvent, les gens disent, mais manger spirituellement, c'est lire la Bible. Oui, ça fait partie, mais c'est pas juste lire la Bible, c'est faire la Bible. De mettre la Bible en pratique. L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu, mais ça devient nourriture seulement et uniquement quand on met cette parole en action. Sinon, c'est pas de vraie nourriture. Amen? Combien de fois vous avez déjà eu l'expérience d'arriver chez quelqu'un et tu as faim et tu vois un bol de fruits et waouh, j'aimerais bien avoir cette fraise ou cette pomme et quelque chose et puis après quelques minutes vous vous rendez compte que c'est fait en cire. Je dirais lire la Bible sans mettre la Bible en pratique, c'est comme manger du fruit en cire. Ça a l'air de la parole de Dieu, mais il n'y a rien dedans qui va vous faire du bien. Il n'y a rien qui va vous aider. On a besoin de respirer. On pratique la présence de Dieu. On a besoin de boire. On prend du temps dans la parole de Dieu. Mais on a besoin de manger. C'est-à-dire que je suis consacré à faire l'œuvre de Dieu et d'accomplir sa volonté. De faire sa volonté et d'accomplir son œuvre. Alléluia. Et c'est quoi l'œuvre de Dieu? Et on voit ici, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. En fait, Jésus est en train de montrer à ses disciples, ma nourriture, c'est de faire ce que je suis en train de faire en parlant avec cette femme samaritaine. Je lui donne et je lui offre l'eau vive. Et la Bible dit que cette femme est allée chercher toute la ville de Sychar, et au moment donné, les disciples regardent, et voici toute la ville qui vient voir Jésus. Et Jésus dit, regarde la moisson. Je pense pas qu'il pointait juste aux champs de blé ou quelque chose. Moi, je crois aussi qu'il pointait probablement à la foule qui venait. Voilà, regarde la moisson qui est déjà blanchie, qui est déjà prêt à être moissonnée. On devrait être tellement préoccupés avec un amour et un désir de voir les âmes sauvées, que ça devienne comme notre nourriture. Regarde quelqu'un d'autre et dis, avez-vous faim? Oh là là, j'ai faim pour les raisins. C'est pas ça. Oh là là, j'ai faim de voir la volonté de Dieu accomplie dans ma vie. Oh là là, j'ai faim. J'ai faim de voir l'œuvre de Dieu accomplie dans ma vie. C'est ma nourriture. C'est ça qui fait ma substance. Si je ne fais pas ça, je vais mourir de faim. Amen? On a besoin de respirer. On parle de comment mettre de l'ordre dans votre vie. OK? Et là, on parle de la base. On parle de ces trois gros roches. Respirer, boire et manger. Est-ce que je suis en train de dire que les autres choses ne sont pas importantes? Non. Tout va de pair. Est-ce que le travail n'est pas important? Oui, c'est important parce que c'est en faisant votre travail bien comme il faut que vous serez en contact avec les âmes qui ont besoin d'être sauvées. Amen? Ah, si ça veut dire que je ne devrais pas jouer au sport? Non, c'est en jouant au sport que vous êtes capable de vivre pleinement et respirer et être en contact avec d'autres personnes, avoir la communion ou même amener des âmes au Seigneur. On doit vivre pleinement la vie chrétienne. On respire, on boit et on mange comme il faut. Et on est en santé. Et si on commence à faire cela, le chaos qui se trouve dans notre vie, le tohu-bohu qui est là, va être transformé en jardin de paradis. Je n'ai pas dit que tout serait changé de jour en lendemain, mais je vous assure que si vous respirez la présence de Dieu, si vous buvez la parole de Dieu, si vous mangez l'œuvre de Dieu et la volonté de Dieu, si c'est votre priorité, votre motivation, que les autres choses vont se placer. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces autres choses, les vêtements, le travail, l'argent, toutes les autres choses dont vous avez besoin, vous seront données par-dessus. Mais on met les priorités à la bonne place sans négliger les choses importantes. Amen. Puis on va lire un dernier passage, Éphésiens 5 et 16, et on va terminer avec cela. On parle toujours de mettre de l'ordre dans votre vie, de remplacer le tohu-bohu. Regarde quelqu'un d'autre et dis au revoir au tohu-bohu. Dis adieu à tohu-bohu. Adieu. Comportez-vous, verset 16, comportez-vous en gens avisés qui se rendent compte en quel temps critique nous vivons et savent tirer le meilleur parti de la période présente. Devenez maître de votre temps. Profitez de toutes les occasions favorables, malgré les difficultés de l'heure. Oui, précisément, parce que nous vivons un temps où domine le mal. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables et imprudents, ne vivez pas en dilettante, mais à travers tout ce que vous y arrive, en toutes circonstances, soulignez ces mots « tout » et « tout ». Avant tout ce qui vous arrive, en toutes circonstances, cherchez à comprendre ce que le Seigneur veut vous dire, puis tenez-vous fermement à ce qu'il vous demande. Cherchez la volonté de Dieu. Dans chaque moment, on parle toujours de manger la volonté de Dieu et l'œuvre de Dieu. Et puis verset 18 dans la version du Samuel dit, ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais laissez-vous quoi? Constamment remplir par l'Esprit. Laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. Constamment. On respire, on boit et on mange. On respire, on boit et on mange. On respire la présence de Dieu. On boit la parole de Dieu et on mange l'œuvre de Dieu. Amen. Et comme ça, notre vie peut commencer à devenir réglée. Au lieu d'être informe et vide et vaine et décevant, notre vie va prendre la forme que Dieu a voulu dès le commencement. Amen. La parole et l'esprit vont agir dans notre vie et nous aurons de l'ordre dans notre mariage, nous aurons de l'ordre dans nos finances, nous aurons de l'ordre dans notre corps physique, nous aurons de l'ordre dans nos relations, nous aurons de l'ordre dans notre carrière parce que nous respirons, nous buvons et nous mangeons comme il faut. On va se lever debout. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Est-ce que vous avez reçu quelque chose ce matin? Donc, on va le mettre en pratique. On va pas manger les pommes de cire. Amen. On va manger le vrai fruit de l'Esprit et le vrai fruit de la parole de Dieu. Donc, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour ta présence qu'on peut respirer. Merci, Seigneur, pour ta parole qu'on peut boire. Et, Seigneur, merci que fais ton œuvre et accomplis ta volonté, Seigneur. C'est comme la nourriture pour nous. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Juste avant de quitter aujourd'hui, je veux faire quelque chose. On va faire une prière tous ensemble. Chaque chrétien qui veut mettre de la vie, de l'ordre dans sa vie. Encore, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Ce n'est que la fondation. Ce n'est que des trois grosses roches qu'on a mis dans le pot. Il reste du gravel, il reste du sable, il reste de l'eau. Mais si on peut au moins mettre ces trois grosses roches dans le pot, déjà c'est un début important et indispensable. Combien de vous voulez mettre votre vie en ordre? Moi, je veux le faire. Je ne suis pas en train de dire que toute votre vie est en désordre, même, mais moi, je sais qu'il y a des choses qui vont bien dans ma vie et des choses qui vont moins bien. Et plus je respire, plus je bois et plus je mange spirituellement, mieux les choses vont aller. Donc, on va faire cette prière ensemble. Père Céleste, je te remercie que tu es capable de transformer le tohu bohu, le désordre et la destruction qui se trouve dans ma vie. Tu es capable de le transformer en quelque chose de beauté. Merci Seigneur que tu vas m'aider à respirer et de pratiquer ta présence. 24 heures sur 24. Je vais boire de la parole. Je vais manger, Seigneur, ta volonté et tes œuvres. Au nom de Jésus. Alléluia. Donc, juste avant de partir, vous savez qu'à chaque dimanche matin, j'ai pris un engagement de donner une occasion à tous ceux et celles qui viennent de donner leur vie à Jésus. Donc, je veux juste que vous soyez honnêtes avec vous-même et avec Dieu et avec moi aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je vous demande juste d'être tranquille et silencieux. Il est encore tôt ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Si vous êtes honnête, vous n'êtes pas encore certain, sûr, vous n'avez pas l'assurance d'avoir passé de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Si vous quittez la bâtisse aujourd'hui et vous tombez mort, votre cœur arrête de battre, vous arrêtez de respirer pour plus de 4 minutes. Est-ce que vous avez l'assurance que vous irez directement au ciel avec le Seigneur Jésus? Est-ce que vous savez que vos péchés sont pardonnés et que vous êtes, comme Jésus a dit, né de nouveau, que Jésus habite dans votre cœur? Vous dites, mais moi, je vais à l'église. Écoute, allez vous asseoir chez Tim Hortons, vous n'allez pas devenir une bête. Et vous dites, oh, mais je lis ma Bible. Encore, lire la Bible sans le faire, c'est comme manger un fruit fait avec la cire. Mais je prie. Il y a beaucoup de personnes dans beaucoup de religions même qui prient. Il y a même des personnes qui prient les idoles. La prière ne peut pas vous sauver. La lecture de la Bible ne peut pas vous sauver. Aller à l'église ne peut pas vous sauver. Mais je suis gentil, je suis fin, je suis sympathique avec tout le monde. La Bible dit que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Vos bonnes œuvres ne peuvent pas vous sauver. La seule et unique chose qui peut vous sauver de vos péchés, c'est le sang de Jésus. La grâce de Dieu et la miséricorde de Dieu. Nous sommes tous faits sans lui. Donc, je vous pose la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut donner son cœur et donner sa vie à Jésus? Jésus a dit ceci en Matthieu chapitre 10. Si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant mon Père. Mais si tu me renies devant les hommes, je te renierai devant mon Père. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je vais demander tout simplement? Est-ce que vous êtes prêts à dire oui, j'ai pas honte d'accepter Jésus. Je veux vivre pour lui. Je veux commencer à respirer sa présence. Je veux passer de la mort à la vie. Je veux avoir mes péchés pardonnés. Si c'est le cas, je vais compter à trois. Je vais taper ma main. Dès que je le fasse, mettez votre main dans l'air et je vais prier pour vous. Et aujourd'hui, vous pouvez quitter ce lieu, sachant sans aucune doute que vous êtes sauvés, purifiés, lavés, que vous pouvez commencer une nouvelle vie avec Jésus, un nouveau départ à zéro, comme si vous n'avez jamais péché. Donc, qui ici veut donner sa vie à Jésus? 1, 2, 3. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je vais lever la main. sois pas gêné. Si tu me confesses devant les hommes, je te confesse. Je sais qu'il y a probablement au moins deux personnes ce matin. Peut-être pas, mais je crois probablement que oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un, je lève la main, dis, oh, mais qu'est-ce que mes amis vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont penser quand vous êtes devant le trône de Dieu au jour du jugement? On s'en fiche de ce que les amis vont penser. La seule chose qui compte, c'est ce que Jésus va penser. Et je veux qu'il me confesse devant lui. Parce que quelqu'un ce matin, oui, je crois que Jésus est mort pour moi. Je crois qu'il est enterré. Je crois qu'il est ressuscité. Je veux donner ma vie à Jésus. Je lève la main. Non? Alléluia. Donc, si c'est vous et vous n'avez pas fait ce matin, je vous encourage de ne pas quitter ce lieu ce matin sans le faire. Donc, on va prier. Père Céleste, merci. Merci, Seigneur, pour cette belle journée. Merci, Seigneur, pour ce peuple. Merci, Seigneur, pour ta parole, pour ton esprit. Et merci, Seigneur, qu'on peut avoir, Seigneur, de l'ordre. Le chaos peut disparaître, être remplacé, Seigneur, par un jardin, Seigneur, fructueux. Et, Seigneur, nous te remercions qu'on va respirer, boire et manger tous les jours de notre vie. Être en bonne santé, faire ton œuvre, accomplir, Seigneur, ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia, je vous aime. Je vais aller à la porte pour vous donner la main. On va faire juste un dernier chant pour terminer ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas, mercredi soir, 19h, nous sommes ici pour M, ancré, inébranlable, mature et enraciné. On va avoir un bon temps et que le Seigneur vous bénisse.